Il pleut des cordes, non, ce n'est pas l'apparition d'un bulletin météo sur BFC Classique, c'est le nom, Sarah Chenal, vous qui êtes violoniste d'abord, aussi professeur au Conservatoire à rayonnement régional de Dijon, c'est le nom que vous avez donné à toute une opération que vous menez cette année autour des cordes qui vous sont chères et quelques autres.
Alors, Il pleut des cordes, c'est un énorme projet autour des cordes frottées, à l'initiative de Pascal Robot, professeur d'alto, et avec beaucoup d'événements tout au long de l'année, et nous espérons faire perdurer. Je crois que c'est la première année que s'est engagé cet grand événement. Et puis, voilà, il pleut des cordes, il y en a tout de partout. Il y a des violons, il y a des altos, il y a des violoncelles, des contrebasses. Et puis, nous avons la chance d'avoir en résidence cette année Gracienne Gilly sur un projet autour de la musique contemporaine, avec la présence d'une compositrice qui est là, qui est bien en vie, et ça fait toujours rire un peu les enfants aussi.
Gracienne Gilly, profitons-en, vous êtes en ligne. Alors, surprise par cet accueil, puisque vous avez déjà eu l'occasion de voir les étudiants de conservatoire au mois de février.
Oui, c'est une expérience absolument magnifique que je dois à Sarah, parce que c'est pas facile à organiser avec tous les professeurs qui étaient tout à fait partants et merveilleux, mais imaginez les rendez-vous, tout ça, avoir les enfants en même temps, parce qu'il y a de la musique de chambre, hein, de cordes, enfin, ce sont uniquement effectivement des cordes. Et je suis venue en février une première fois pour faire des masterclass. Et que ce soit en février ou que ce soit, ça va être pareil en avril, que le travail fait par les professeurs et leurs élèves, le soin apporté à mes œuvres, en général maintenant à la musique contemporaine, beaucoup plus qu'auparavant, il y a un soin tout à fait sérieux par rapport à cette musique, alors qu'avant c'était vrai qu'on privilégiait le travail sur Beethoven, Mozart, Chopin, etc., tandis que là, vraiment, il y a un soin, il y a un souci de construire avec un bonheur par ses enfants la musique. Et ça, je le dois aux professeurs et je le dois aux enfants qui sont très, très, très partants.
Gracienne Gilly, lorsque on parle de vous, lorsque vous-même vous affichez sur Internet et un peu ailleurs, c'est toujours compositrice de musique contemporaine. Est-ce que le mot compositrice à lui seul ne suffisait pas ?
Tout à fait. Gracienne Gilly, ceci dit, il m'est arrivé une anecdote extraordinaire, c'est qu'on croyait que c'était comme il y avait un concert italien avec du Tartini, du Vivaldi et tout, on y. Gilly, j'entends deux dames qui disent très gentiment. Oh, ça doit être quelqu'un du 16e, 17e ou 18e siècle.
Eh bien non, vous n'avez pas côtoyé Barbara Strozzi.
Non, voilà. Donc, effectivement, de mettre contemporaine. Mais c'est beaucoup mieux de mettre Gracienne Gilly, compositrice d'aujourd'hui, par exemple. Parce que d'abord, le mot contemporain ne me plaît jamais, pour la bonne raison que Mozart était contemporain de son temps. Donc, ça ne veut rien dire contemporain. Et cette appellation, elle est arrivée comme ça au 20e et 21e siècle. Mais il n'y a pas de raison.
Oui, elle est aussi à la fin du 20e. Parce que
voilà, fin 20e.
Et moderne, c'était maintenant, c'est déjà dépassé, c'était le début du 20e. Et maintenant, contemporain, c'est passé aussi, c'est la fin du 20e.
Et ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des œuvres de Weber qui sont plus, comme on va dire, hard, vous comprenez le terme dont je parle, que certaines œuvres aujourd'hui. Donc, je veux dire, c'est, alors qu'on appelait ça musique moderne, mais la musique moderne, on ne peut plus non plus parce qu'elle est associée. Donc, c'est assez compliqué. Moi, j'aime bien dire musique classique d'aujourd'hui.
Vos compositions passent tout de même par des interprétations sur des instruments que je dirais traditionnels. C'est les cordes, c'est l'accordéon, c'est la voix, bien sûr, puisque vous devez avoir à peu près une centaine d'œuvres à votre actif.
180.
Et combien d'opéras ?
6. Énormément d'œuvres d'orchestre, beaucoup de concertos, et beaucoup d'œuvres de musique de chambre, et beaucoup d'œuvres pédagogique. C'est pour ça que j'adore avoir des résidences dans des conservatoires, etc., des petits ou grands.
Oui, oui, c'est ce qui a fait l'attrait aussi, comme ça permet d'avoir tout un panel de possibilités du plus jeune au plus âgé. Oh. Ça, c'est très important, effectivement.
Sarah Chenal, revenons aux cordes et au professeur que vous êtes. On parlera de la violoniste un peu plus tard. Comment prépare-t-on, on a évoqué les enfants au début de notre conversation, comment les prépare-t-on à ce dialogue avec une compositrice qui ne fait pas nécessairement partie de ce qu'ils écoutent ordinairement?
Déjà, on prépare les personnes qui vont les préparer, c'est-à-dire tous les collègues. Moi, j'ai pris un peu le panel des œuvres de Graciane Finzi, j'ai tout écouté, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui serait possible pour chaque instrument. Après préparer tout ça, je l'ai proposé à chaque professeur d'instrument. Et après, j'ai vu s'ils étaient partants. Et là, j'ai été incroyablement surprise parce qu'ils étaient tous extrêmement partants. Donc, ça a pris des proportions beaucoup plus grandes que ce que j'imaginais au départ. Au départ, j'étais partie sur le répertoire de musique de chambre, qui est déjà très important. Et puis ensuite, avec les violonistes, on a discuté un petit peu et on s'est dit, mais pourquoi pas les mettre aussi en fin d'année sur leur contrôle ou examen. Voilà, en se mettant d'accord sur lesquels. Et puis, voilà, c'était une deuxième direction qui a été prise par les professeurs de violon, les professeurs de violoncelle. Et puis, l'autre direction qui a été prise, ça a été la direction orchestrale, puisque nous avons plusieurs orchestres au conservatoire. Nous avons un orchestre pour les fins de premier cycle, un orchestre pour les deuxièmes cycles, un orchestre pour les grands, les troisièmes cycles. Les premiers sont uniquement à cordes et puis les derniers sont symphoniques. Et puis ensuite, le plus long, et c'est ce qui est en ce moment, c'est donc la préparation avec chacun, donc les enfants, les ados, les jeunes adultes. Et ça avance doucement, avec aussi l'accompagnement des pianistes accompagnateurs, qui est très très important parce qu'ils ont une partie primordiale pour certaines pièces. Et voilà, tout ça se mène de concert, donc il y a à peu près, je crois, une quinzaine de professeurs qui participent, ce qui est énorme.
Mais c'est magnifique.
Voilà. Et comment réagissent les enfants? On l'a vu, en fait, c'est la première masterclass. Certains sont déjà convaincus d'emblée parce qu'il y a une nouvelle façon d'écrire qu'ils n'ont pas eu jusque-là. Avec, par exemple, je parle pour le violon, des pits, des sons près du chevalet, voilà, des parties parlées parfois, enfin, des choses qu'ils n'ont pas, qu'ils peuvent avoir faites, mais pas régulièrement. Et ils ont un attrait pour ça. Ils disent, tiens, c'est nouveau, chouette. Voilà, ça les intéresse. Alors d'autres se disent, bah, justement, c'est nouveau, c'est étrange, c'est bizarre. Et ceux-là ont découvert, en fait, avec la venue de Graciane Finzi, un sens à cette musique. Ils ont vu une personne, un humain derrière des partitions. Et ça a changé complètement leur rapport à ces partitions. Et c'est vrai que les quelques heures qu'on a eues au mois de février avec Graciane Finzi, j'ai vu une métamorphose entre le début et la fin, où tout d'un coup, une pièce, je pense à par exemple Phobie, cette pièce pour violon seul.
Ce que tu dis est super formidable, parce que effectivement l'évolution de ces enfants, il y a une grande difficulté dans certaines petites œuvres, même si elles sont faciles, on va dire, instrumentalement, c'est de parler, et ce sont des sortes de... C'est du théâtre musical par moment. Et là, faire sortir un enfant de l'instrument pour parler, pour avoir une action, pour agir scéniquement, je crois que ce n'est pas du tout facile. Puis ça dépend des enfants. Il y en a qui sont très, très, très aptes à ça et d'autres beaucoup plus timides. Et organiser tout ça et dans leur travail est assez difficile et différent. Mais je pense que c'est ce que tu as voulu dire aussi, Sarah, c'est que ça les intéresse parce que c'est différent, aussi bien dans les façons de jouer, comme tu l'as dit, les bruitages, mais ça peut donc faire... Ces bruitages font que des enfants qui sont complètement débutants peuvent jouer ensemble des pièces très contemporaines et ils ne pourraient pas jouer en orchestre. Ce serait faux, ce ne serait pas bien. Là, ce sont des choses, des bariolages, derrière le chevalet, voilà, tout ça, les pits, les glissandi. Et ça les amuse, ça les intéresse et ça fait partie de toute façon de la musique que l'on joue dans des niveaux plus élevés.
Sarah Chenal.
Je voulais juste dire que les pièces s'adressent donc à des professionnels. Elles sont jouées, certaines en tout cas s'adressent à des professionnels parce qu'elles sont jouées en concert. Et donc, pour nos grands élèves, c'est vraiment une opportunité de pouvoir se produire sur ces pièces dont ils savent que ces pièces pourront faire partie de leur répertoire quand ils seront concertistes très bientôt.
Oui, je crois que Sarah, qui a la Sigirinha qui est jouée.
Tout à fait.
Et alors, la Seguiria, j'en parle parce que c'est parti d'une commande que j'avais pour des archives dansants. Et effectivement, on fait pas danser vraiment les enfants sur cette Seguiria, qui est une danse espagnole avec des rythmes très difficiles. Il y a un chef ou il n'y a pas de chef, mais là, c'est de toute façon des enfin, très difficile comme une Seguiria. Et c'est une autre sorte de travail pour ces cordes. Là, c'est pour violon, alto, violoncelle, contrebasse. Et ils bougent en même temps. Et ça aussi, c'est dans l'apprentissage formidable pour les cordes de bouger. L'enfant ne pense plus trop à sa position. Il doit la garder bonne, bien entendu. Mais il bouge et ça donne une aisance. Après, quand il travaille un morceau avec un pupitre devant lui, ça donne une aisance formidable parce qu'ils jouent tout ça par cœur, forcément, pour pouvoir bouger. Mais ça a une allure. Ils doivent aussi faire les rythmes avec les pieds, avec les mains, la panne des palmas, comme on dit. Et c'est remarquable comme travail, je pense. Parce que quand un compositeur écrit une œuvre pédagogique, il faut que ce soit sa propre musique et son langage. Parce que sinon, ce n'est pas la peine de demander à tel ou tel compositeur. C'est son propre langage, mais qui doit être adapté. Et de faire découvrir, de voir ce regard d'un enfant qui va tout d'un coup avec son instrument, alors qu'il est petit, qu'il n'a pas encore une technique, qu'on lui dit toujours, c'est pas juste, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et tout d'un coup, de lui expliquer quelque chose d'autre. Et tout, moi, ça me réjouit. Moi, j'ai l'impression d'être vraiment utile quelque part. Et souvent, les profs, pareil pour les autres opéras d'enfants que j'ai pu faire, avec des choses difficiles pour des chœurs qui travaillaient toute l'année, ces opéras d'enfants, avec un orchestre professionnel, hein, toujours. Mais ces chœurs d'enfants des écoles, les professeurs me disaient que leur regard était différent sur la musique, mais non seulement, étaient différents dans leur attitude en classe. C'est-à-dire qu'il y avait tout d'un coup le pouvoir de se concentrer. Alors que les enfants en classe souvent ne se concentrent pas, la concentration était vraiment mise à niveau et c'est très important. Je l'ai eu de toutes les expériences que j'ai pu faire dans les écoles avec ces enfants qui, au départ, on ne peut même pas les faire travailler plus de 5 minutes. Et à la fin, au bout de 2 heures, ils disent « Oh, c'est déjà fini !» Ils vous mettent des mots en disant « On est rentré par l'entrée des artistes. »
Sarah Chenal, oublions pour un temps les masterclass pour parler concerts, deux concerts pour ce mois d'avril. Le premier, ce vendredi, ce sera dans la chapelle de l'ancien couvent des Cordeliers, rue Turgot à Dijon. Et puis, le vendredi suivant, le 12, alors concert un peu différent. Et cette fois, nous serons dans l'église Saint-Joseph.
Ben, des masterclass, oui, mais un aboutissement, effectivement, avec une salle de spectacle, des coulisses, Voilà, l'adrénaline qui monte.
L'entrée des artistes.
Oui.
Voilà.
Et donc, la première restitution, c'est celle du 5 avril. C'est une restitution donc, du travail des classes de musique de chambre, ceux qui ont été écoutés déjà à la première masterclass. C'est aussi la restitution de certains élèves méritants qui ont joué leur partie d'instruments solo. Alors, je parle des violonistes, des violoncellistes. Aussi au mois de février, et Graciane Fizzi les a remarqués et a dit oui, ceux-là, on peut les mettre en avant pour ces concerts. Donc, ils sont particulièrement brillants. Voilà, et ils sortent aussi beaucoup d'émotions de leur instrument sur la musique de Graciane Fizzi. Ça, c'est le concert du 5 avril, très important. Et voilà, et le deuxième concert, c'est un concert qui n'est pas que sur la musique de Graciane Fizzi, mais elle est représentée sur chaque ensemble orchestral. Il y a un petit peu tous les niveaux. Il y a le premier niveau de premier cycle avec la Sigelia dont Graciane Fizzi a parlé tout à l'heure, une danse où ils vont bouger, frapper des mains, marcher. Ensuite, il y aura le Loctueur de violoncelle hein, qui va jouer une pièce qui a énormément progressé depuis la première masterclass et pourtant je crois que c'était déjà chouette. Voilà, donc Loctueur de violoncelle dirigé par Christian Wolff. Ensuite, il y aura l'orchestre des jeunes qui joueront Variation d'intensité. Et puis, l'orchestre symphonique, mais en deux chambres, qui jouera donc avec moi le concerto pour violon Par-delà les étoiles.
Graciane Fizzi, oh, j'ai cherché un disque, mais ce concerto pour violon n'a pas été enregistré sur disque. L'extrait qu'on entend là a été interprété par David Grimal avec un orchestre qui est d'ailleurs différent de son ensemble, les Dissonances qu'on a beaucoup vu à Dijon ces dernières années.
Cet enregistrement est avec l'orchestre de Normandie, l'orchestre de Normandie qui malheureusement a été absorbé par l'orchestre de Rouen. J'ai créé donc ce concerto avec David Grimal. Et qui tourne beaucoup d'ailleurs. Il se trouve que ce concerto qui s'appelle Par-delà les étoiles, je l'ai écrit après le décès de mon mari. Alors évidemment, il est d'une grande émotion. Oui, je confirme. Oui.
Merci à toutes les deux. On met les liens sur le site de BFC Classique.